Radio Kapi. Oh, Kapi. Le journal Blaise Sindani Kambala.
Bujumbura, carrefour du dialogue congolais. Opposition et responsables religieux en consultation sur la crise politique et sécuritaire en RDC sous l'égide du président burundais en sa qualité du président de l'Union africaine. La baleine de Mwanda, funérailles populaires, cortège motorisé, fanfare et foule immense pour accompagner la géante des mers vers sa dernière demeure au Congo central. CIJ ou CPI, deux cours, deux mandats. Chibangu Kalala, professeur de droit international et spécialiste en droit public, qui est l'invité de ce journal, éclaire la différence entre la Cour internationale de justice qui juge les États et la Cour pénale internationale compétente pour les individus. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal. Nous ouvrons ce journal par ces consultations qui se tiennent depuis ce week-end à Bujumbura. Elles réunissent l'opposition politique congolaise et des responsables religieux autour de la crise politique, sécuritaire et institutionnelle en RDC. Cette initiative est portée par le président burundais Evariste Ndayishimiye, également président en exercice de l'Union africaine, avec pour objectif de favoriser un dialogue entre acteurs politiques et religieux sur la situation du pays. Parmi les participants figurent des représentants de la coalition d'opposition C64, ainsi que des délégués de la Conférence épiscopale nationale du Congo, de l'Église du Christ au Congo et de la plateforme des confessions religieuses et des églises de réveil. Pour l'opposition C64, le message est clair, la constitution ne peut être changée. Prince Epengue, cadre de la coalition Lamuka, explique au téléphone de Radio Okapi.
La coalition article 64 a reçu en bonne et due forme l'invitation du président de la République du Burundi et président en exercice de l'Union africaine. La coalition article 64 pour la défense de la Constitution a décidé d'honorer l'invitation du président Ndayishimiye. La délégation composée notamment du président Martin Fayulu, président Moïse Katumbi ou son représentant, président Sesanga et les autres, est bel et bien arrivé dans la capitale burundaise. Les échanges vont enfin commencer. Évidemment, nous sommes invités, c'est au président burundais de nous dire les messages qu'il voulait nous livrer ou livrer à nos délégués. Notre message au niveau de la coalition, c'est que la constitution est opérationnelle. Il n'y a pas lieu de la toucher dans ce contexte.
Côté majorité, Radio Kapi a essayé de contacter le secrétaire général de l'UDPS pour avoir son point de vue sur ces assises de Bujumbura, mais en vain. Et puis, cette mise en garde des responsables des services de défense et de sécurité à Kinshasa. Ces autorités affirment avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour prévenir tout trouble à l'ordre public après les appels à manifester lancés par l'opposition. Elles réitèrent leur détermination à garantir la sécurité des personnes et de biens tout en avertissant contre toute tentative de perturber la quiétude de la capitale. Ces responsables se sont réunis ce week-end à Kinshasa autour du vice-premier ministre en charge de l'intérieur. On écoute le gouverneur Daniel Bumba dans ses propos recueillis par Grace Amzati.
Nous tenons à soulever que le vivre ensemble, que nous prenons tous dans le respect de valeurs démocratiques et républicaines, nous pousse à pouvoir être responsables de nos actes. Alors de ce fait, nous soulignons que tout acte qui porte le germe de subversion sont prohibés. Et par ailleurs, les forces de défense et de sécurité seront là pour préserver la quiétude dans la ville de Kinshasa. Alors nous profitons de l'occasion pour assurer l'opinion tant nationale qu'internationale que tout en accompagnant dans un esprit républicain et démocratique les manifestations. Mais nous voulons aussi rassurer ici que tout doit se faire dans les normes établies selon les lois et les règlements de la République, mais également en assurant aussi la liberté aux paisibles citoyens qui veulent bien vaquer à autre chose. Et nous pensons que dans les jours qui viennent, nous allons peut-être vous en renseigner davantage sur les mesures prises.
C'est presque le même message du côté du Haut-Katanga. La mairie de Lubumbashi a annoncé vendredi dernier l'interdiction de toute manifestation et de tout rassemblement public dans la province. Objectif affiché, préserver l'ordre public, la quiétude sociale et le bon usage des espaces publics, précise un communiqué officiel. Même position du côté de la mairie de Likasi, à une centaine de kilomètres de Lubumbashi, à Kolwezi, dans les Lualaba. L'autorité urbaine interdit quant à elle à la coalition C64 de l'opposition d'organiser une marche invoquant une fois la menace de la maladie à virus Ebola. En rapport toujours avec la politique, l'église catholique de Kananga traverse une zone de turbulence. Au cœur de la discorde, la prise de position de la SENCO contre tout changement de la constitution. Certains prêtres et fidèles de l'archidiocèse contestent ouvertement cette décision qu'ils considèrent comme une simple opinion et non une directive qui s'impose à tous. Face à cette polémique, le vicariat général de Kananga appelle au calme. Dans un message publié samedi, il dénonce les discours de haine sur les réseaux sociaux et invite les chrétiens à préserver l'unité autour de leurs évêques. Le point avec André Katende Ngalamudume.
Un seul cœur et une seule âme, c'est le titre du message publié par le vicariat général de l'archidiocèse de Kananga. Depuis la déclaration de la SENCO le 19 juin dernier, le climat est électrique. L'épiscopat y rejette toute révision constitutionnelle. Mais à Kananga, la pilule a du mal à passer. Certains fidèles et même des prêtres de l'archidiocèse se sont opposés publiquement à la décision des évêques. Face à cette fronde, les autorités de l'église veulent apaiser les tensions. Elles dénonce des manipulations et des discours de haine qui enflamment les réseaux sociaux. Le vicariat appelle les fidèles à faire preuve de prudence. Il les invite à ne pas se faire entraîner par les informations qui alimentent la haine et la division. Le message réaffirme également le soutien de l'archidiocèse à son archevêque, Monseigneur Félicien Tamboué. Selon les vicaires généraux, s'il a paraphé le document de la SENCO, c'est au nom de la collégialité épiscopale. L'archidiocèse appelle les fidèles à l'apaisement, à la communion et à l'unité autour de leurs évêques. Kananga, André Katende Ngalamulume, Radio Okapi.
Une héroïne très médiatisée a tiré sa révérence. Vous l'avez deviné, il s'agit de la baleine de Mwanda, échouée sur une plage du Congo central. Samedi, cortège motorisé, fanfare et une foule immense ont accompagné ces géants des mers. Près de 12 mètres de long et plus de 10 tonnes jusqu'à sa dernière demeure à Makasamba, toujours dans le Congo central. Un déplacement qui a pris des allures d'hommage populaire. Des détails dans ce récit signé Élise Kavira.
Accompagnée d'un cortège motorisé, de fanfares et d'une foule impressionnante, la carcasse de la baleine géante qui a tenu Mwanda en haleine pendant plusieurs jours a effectué son ultime voyage à travers la ville, attachée à l'arrière d'un porte-container avant d'être inhumée dans une fosse adaptée aménagée par l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN. La présence de ces visiteurs arrivés par surprise avait attiré des centaines de curieux, dans les quartiers, les marchés et partout ailleurs, elle était devenue le sujet de toutes les conversations. Malgré les efforts des équipes de l'ICCN pour la remettre à l'eau, la baleine n'avait malheureusement pas survécu. Face à sa masse importante, il a fallu qu'une grue vienne de Matadi pour déplacer sa carcasse. Compte tenu des risques liés à sa décomposition, son inhumation était devenue indispensable. Les responsables de l'ICCN ont à plusieurs reprises appelé les habitants à ne ni toucher la baleine ni consommer sa viande dans l'attente d'éventuelles analyses. À son arrivée sur le lieu aménagé pour lui servir de dernière demeure, la baleine a été mise en terre, mettant un terme à une semaine riche en émotions. À Mwanda, le passage de la géante des mers restera longtemps gravé dans les mémoires. Matadi, Élise Kavira, Radio Okapi.
Pas de très bonnes nouvelles en provenance de l'Ituri. Les prestataires de santé engagés dans la riposte contre Ebola boudent. Ils dénoncent des conditions de travail jugées médiocres qui les exposent directement à la maladie. Dans un mémorandum adressé dimanche au gouverneur des provinces à Bunia, ces hommes et femmes en première ligne réclament aussi les paiements de leurs primes. Ils menacent d'entrer en grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Martial Kisabiamungu nous en dit plus.
Ils sont des centaines d'hommes et de femmes qui travaillent jour et nuit pour sauver des vies humaines dans les différents centres de traitement d'Ebola dans les zones affectées par la maladie. Dans leur mémorandum adressé au gouverneur des provinces, ils exigent l'amélioration de leurs conditions de travail et du barème de leur rémunération qui, selon eux, n'est pas à la hauteur de leurs sacrifices. Ils demandent le paiement de leurs primes dues depuis la déclaration de l'épidémie le 15 mai dernier.
Nous exigeons ce qui suit. Notre paiement dans l'immédiat, au plus tard dans le 24 heures. Le barème à notre disposition n'est pas à la hauteur de notre travail. L'exportation excessive de main-d'œuvre des autres provinces vers l'Ituri manque de moyens nécessaires pour riposter.
Ces prestataires de santé menacent de déclencher un mouvement de grève généralisé dans les prochaines 24 heures si les revendications ne sont pas satisfaites. Nous n'avons pas encore eu la réaction des responsables de la riposte contre la maladie à virus d'Ebola. Anitouri, Bounia, Martial Kizabiamungu, Radio Okapi.
Des rivières transformées en poubelles, c'est le triste spectacle qui s'impose aujourd'hui à Kinshasa. Plusieurs cours d'eau, parmi lesquels Makelele, Kalamu, Gombe et Njili, sont fortement dégradés, envahis par des déchets plastiques, bouteilles, ordures ménagères et même des défécations humaines. Ces rivières deviennent de véritables dépotoirs à ciel ouvert. Une situation préoccupante qui menace à la fois l'environnement et la santé des populations. Pour le professeur Jacques Munokamondo, expert en questions environnementales, cette réalité s'explique par des difficultés de gestion des déchets, le manque d'infrastructures adaptées et une sensibilisation insuffisante. Reportage signé Ela Chembalo.
Les longs des rivières Makelele, Kalamu, Gombe et Njili, les constats est le même. Les déchets s'accumulent et modifient profondément les paysages. Plastiques, bouteilles, ordures ménagères et excréments envahissent les eaux et leurs abords. Pour le professeur Jacques Munoka, cette réalité résulte d'un ensemble de facteurs liés à la gestion urbaine.
Les citoyens ignorent la conscience environnementale sur ce qu'ils doivent faire. Vous allez voir dans certaines familles, ils ont même lancé les tuyaux de leurs toilettes dans la rivière. C'est un problème de conscience. Je prends par exemple, si vous êtes à côté de la rivière Kalamu, vous ne pouvez pas boire cette eau.
Selon lui, les conséquences dépassent les simples aspects visuels. Cette pollution dégrade les écosystèmes aquatiques, contamine les ressources en eau et favorise la propagation des maladies hydriques.
La pollution des eaux par les déchets constitue une menace directe pour la santé humaine, notamment par la propagation des maladies et l'accumulation de substances toxiques. Il faut qu'il y ait une sensibilisation pour qu'on puisse avoir une réglementation qui soit efficace.
Face à cette situation, l'urgence est désormais d'agir pour protéger les rivières de Kinshasa et améliorer la gestion des déchets dans la capitale.
Toujours dans la capitale, le ciel s'ouvre à nouveau entre Kinshasa et Bruxelles. Un vol régulier d'Air Congo relie désormais les deux villes plus de 25 ans après. Le vol inaugural a décollé il y a quelques jours à l'aéroport international de Njili, à destination de la capitale belge, marquant ainsi le retour de la RDC sur la scène aérienne internationale. Le héros du jour, un Boeing 787 flambant neuf aux couleurs d'Air Congo d'une capacité de 300 sièges. 8 heures de vol vers Bruxelles à la grande satisfaction des passagers. Les détails avec Askin Zigbatayoro.
La joie était palpable à l'embarquement. C'est un moment historique qui a confié un passager congolais arrivé à Bruxelles à bord de vol Air Congo. Selon les dires de ce voyageur, c'est un moment de fierté nationale de revoir l'avion propre de son pays survoler l'Europe après deux décennies d'absence. Sur le plan stratégique, Air Congo entre en concurrence directe avec Brussels Airlines, qui opérait jusqu'ici cette ligne en quasi-monopole. La compagnie nationale prévoit d'effectuer cette liaison 4 à 5 fois par semaine, c'est-à-dire mercredi, vendredi, samedi, dimanche et lundi. Il faut noter que ces retours de trafic aérien d'Air Congo entre Kinshasa et Bruxelles s'effectuent dans un contexte réglementaire spécifique. En termes clairs, la RDC est toujours sur la liste noire des lignes européennes interdisant aux compagnies congolaises de survoler son espace aérien. Mais aujourd'hui, Air Congo a contourné cette restriction grâce à un contrat de mid-lease, c'est-à-dire location avec l'équipage avec Ethiopian Airlines. Ainsi, le Boeing 787, bien qu'aux couleurs congolaises, est fourni avec son équipage, sa maintenance et son assurance par les partenaires éthiopiens qui n'est pas soumis à l'interdiction. Au niveau du ministère des Transports, il est reconnu que c'est une solution transitoire en attendant que la RDC arrive à satisfaire pleinement aux normes internationales de sécurité.
Actualité internationale.
Le Cameroun n'a désormais plus d'installation pour liquéfier son gaz naturel. Les bateaux usines Ili et Piseyo, opérés par l'armateur norvégien Golar LNG, quittent les eaux camerounaises ce mois de juillet après 8 ans d'exploitation au large des Kribi. C'est un tournant pour le secteur des hydrocarbures au Cameroun, puisque c'était la seule unité permettant la production et donc l'exportation et la vente de gaz naturel liquéfié camerounais. Les conséquences sur les finances du pays sont lourdes.
L'invité.
La RDC a officiellement saisi la Cour internationale de justice contre le Rwanda, annonce faite la semaine dernière par son représentant au Conseil de sécurité des Nations Unies sur la résolution du 27 juin consacrée à la situation du pays. Mais depuis, une confusion persiste. Beaucoup de personnes mélangent la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale. Pour éclairer cette différence, le professeur de droit international et spécialiste en droit public, Tshibangu Kalala, nous explique en termes simples le rôle de chacune de ces institutions. Notre invité de ce matin s'entretient avec Benjamin Mudumbi.
Professeur Tshibangu Kalala, bonjour.
Bonjour.
Professeur, en de termes simples, quelle différence établissez-vous entre la Cour internationale de justice et la Cour pénale internationale?
La Cour internationale de justice, c'est une cour permanente créée par l'ONU. Pour faire quoi? C'est pour régler de manière pacifique les conflits qui peuvent opposer des États. De manière pacifique pour éviter des guerres. Parce qu'on a vu, il y a eu la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, qui ont provoqué des destructions humaines, des chez les biens. Et donc, il faut éviter de recourir à la guerre pour résoudre les conflits entre États. Donc, la Cour internationale de justice a été créée par l'ONU, donc par les États, pour résoudre de manière pacifique les différends qui peuvent surgir entre eux. Cette Cour ne juge que les États et pas les individus. C'est le cas que nous avons eu avec RDC contre l'Ouganda et contre la Guinée-Conakry. Et même la RDC contre la Belgique dans le passé récent. En revanche, la Cour pénale internationale, cette Cour ne peut pas juger les États. Cette Cour n'est là que pour juger des individus. Nous avons le cas dans notre pays où il y a eu des Congolais qui ont été jugés devant cette Cour. Thomas Lubanga, Ngodiolo, Germain Katanga, l'ancien président de Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, qui ont été jugés par la CPI. Il n'est là que pour juger des individus soupçonnés d'avoir commis des infractions internationales. En résumé, c'est ça la différence entre les deux cours.
Alors, professeur, pour les cas de la RDC aujourd'hui qui a saisi officiellement la Cour internationale de justice contre le Rwanda, il y a peut-être des personnes, donc des individus qui sont impliqués dans des crimes. Alors, pourquoi la RDC opte aujourd'hui pour la CIG et non la CPI?
Oui, il y a une confusion dans l'opinion publique entre la Cour pénale internationale et la Cour internationale de justice. Peut-être aussi parce que ces deux cours siègent dans la ville de La Haye. Et pourquoi les gens font un peu de confusion. Et pourquoi la RDC a choisi la CIJ au lieu de CPI? Comme je vous l'ai dit, la Cour internationale de justice juge les États et pas les individus. C'est la raison pour laquelle la RDC, qui est agressée par le Rwanda qui tue nos populations matin et soir, donc il fallait saisir la CIJ qui est compétente pour juger les États pour que cette Cour puisse aussi juger le Rwanda. Donc on ne pouvait pas aller accuser le Rwanda devant la CPI, Cour pénale internationale, parce que la Cour pénale internationale ne juge pas les États, juge les individus. Maintenant, la Cour pénale internationale est en train de mener des enquêtes dans notre pays depuis que la guerre a éclaté à l'est de notre pays, guerre menée par le Rwanda avec ses soldats, avec le M23. Et la CPI est en train de mener des enquêtes. Nous espérons que dans un proche avenir, la CPI pourrait lancer des mandats d'arrêt pour pouvoir procéder à l'arrestation des criminels rwandais ou congolais qui sont impliqués dans des massacres, des tueries, dans des crimes de guerre, des crimes de génocide ou des crimes contre l'humanité.
Professeur, d'après vous, quelles pourraient être les chances d'aboutissement de la RDC cette fois-ci?
C'est vrai, nous sommes à la troisième tentative contre le Rwanda. Il y a eu déjà deux requêtes en 1999, en 2002. La CIJ avait rejeté la demande de la RDC en 2006, le 3 février 2006, dans un arrêt, en déclarant qu'elle n'est pas compétente pour juger le Rwanda. Ça fait 20 ans. Cette fois-ci, le gouvernement est revenu pour la troisième fois devant la CIJ pour poursuivre le Rwanda, surtout avec les derniers événements depuis 2021, où le Rwanda est en train de massacrer des Congolais et de notoriété publique internationale. Donc, quelles sont les chances de réussite? Nous sommes au début du procès. Quand on va dans un procès, on ne peut pas dire qu'on va gagner ou qu'on va perdre, parce que la décision appartient à la Cour. Donc, nous espérons que le gouvernement, avec les équipes de juristes qui le conseillent, ils vont bien présenter le dossier devant la Cour pour convaincre la Cour que cette fois-ci c'est la bonne et amener la Cour d'abord à se déclarer compétente pour juger le Rwanda dans sa première phase et deuxième phase, aller au fond pour apporter des preuves crédibles et solides de l'implication du Rwanda dans les massacres de nos frères et sœurs à l'est de la République. Et attendons que la Cour se prononce à la fin de la procédure.
Professeur Tshibangu Kalala, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier.
Voilà qui met aussi fin à cette édition du journal Parler du Matin, coordonnée et supervisée par Lévin Mbouinga Vubu et mise en onde par Jean-Claude Nchala Mwanama Kengon Tswalou.